franceinter.fr.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, la mort du pape Jean-Paul Ier le 28 septembre 1978. L'avènement ou la mort d'un pape, chef de l'Église catholique romaine et plus haute autorité religieuse pour 1 milliard 228 000 millions de fidèles à travers le monde, est toujours un événement extraordinaire. De ce point de vue, l'année 78 est à marquer d'une pierre blanche. En quelques mois, en effet, deux papes décèdent et trois se succèdent. Au cœur de cette série tragique, le pape Jean-Paul Ier, élu le 26 août, meurt 33 jours plus tard, le 28 septembre, signant l'un des pontificats les plus courts de l'histoire. Cette mort soudaine plonge les catholiques dans la sidération. Très vite, le caractère exceptionnel de l'événement ouvre une série de questions. Albino Luciani, le patriarche de Venise, dont l'élection en tant que pape fut rapide et s'imposa comme une évidence, est-il vraiment mort d'un infarctus, comme l'affirme le Vatican ? Car les imprécisions et les dissimulations du Saint-Siège ouvrent rapidement la voie à la thèse de l'assassinat. Thèse qui nous renvoie dans le passé d'Albino Luciani, son parcours, ses idées, ses projets de réforme. Gênerait-elle certains membres de la curie ? Au-delà de ces failles, cette approche de l'affaire nous invite au cœur des mystères, des secrets et des dossiers du plus petit état du monde qui semble hors du temps et où depuis 2000 ans règne l'opacité. En seconde partie d'émission, nous recevrons le journaliste et écrivain Bernard Lecomte, spécialiste de la religion catholique et auteur du Dictionnaire amoureux des papes chez Plon en 2016. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Simon Maisonneuve avec l'appui des documentalistes de Radio France, attaché de production Valérie Priolet, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui Ludovic Asselot.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Jeudi 28 septembre 1978, Rome. Il est bientôt 21h. Au troisième étage du palais apostolique de la cité du Vatican, le pape Jean-Paul Ier, épuisé, regagne ses appartements. Depuis 33 jours, la vie d'Albino Luciani est entrée dans un tourbillon qu'il est difficile d'imaginer quand on ne le vit pas. Un tourbillon où se mêlent l'intime à l'histoire, l'individu au collectif, la foi à la responsabilité, l'institution à l'héritage. Depuis 33 jours, le nouveau pape vit au rythme harassant que lui impose la plus haute des charges pour un membre du clergé catholique. Ainsi, ce 28 septembre 1978, sa journée fut, comme les 32 précédentes, particulièrement chargée. Réunion sur le tiers-monde, visite de représentants brésiliens et hollandais, interview pour un journal catholique vénitien, rencontre avec des évêques philippins, enfin une entrevue d'environ 2 heures avec son secrétaire d'État, sorte de premier ministre du Vatican, le cardinal Veio. Au cours de cette journée, le pape ressent à plusieurs reprises des douleurs au cœur, sans pour autant en avertir son médecin. À 20h15, le pape et les soupapes dînent ensemble. Jean-Paul Ier est en compagnie de ses deux secrétaires, John Maggi et Don Diego Lorenzi, des hommes de pouvoir, eux aussi. Au cours du repas, une fois encore, le nouveau souverain pontife leur fait part de sa fatigue, des difficultés qu'il a à assumer sa charge. Il se laisse même aller à parler de la mort comme d'un soulagement. Ses deux proches et confidents tentent de le raisonner, le rassurent, l'invitent à considérer le début de ce pontificat comme une épreuve, certes, mais qui s'allégera avec le temps. Puis, un peu avant 21h, Jean-Paul Ier se lève, adresse un dernier mot à ses collaborateurs. « Buonanotte, a domani, se Dio vuole, si Dieu le veut, bien sûr. » Et le pape se retire dans ses appartements. Le lendemain, vendredi 29 septembre 1978, comme chaque matin, un peu avant 5h, Sœur Vicenza, qui travaille depuis 12 ans aux côtés d'Albino Luciani, désormais pape Jean-Paul Ier, lui apporte son café devant la porte de sa chambre. Elle le dépose sur une petite table et s'en va. Mais ce matin-là, une dizaine de minutes après, le café fume encore sur la petite table. Sœur Vicenza s'interroge. C'est curieux, à l'intérieur, la lumière est allumée. Et puis, Jean-Paul Ier dévie rarement de ses habitudes. Il se lève toujours à cette heure-ci. Sœur Vicenza attend quelques minutes, puis finit par frapper à la porte. Aucune réponse. Peut-elle entrer dans la chambre papale ? Délicat. Finalement, dans une sorte de transgression ultime, elle se décide à pousser la porte, s'avance vers le lit, soulève la tenture qui l'entoure et sans regarder appelle de nouveau le pape. Toujours rien. Sœur Vicenza décide alors de se tourner et ce qu'elle voit est inimaginable. Jean-Paul Ier est là, immobile, assis en position de lecture, ses lunettes sur le nez, des feuillets à la main. Elle comprend immédiatement, le pape est mort. Effrayée, elle court prévenir le secrétaire John Maggi qui alerte ensuite le médecin du Vatican. Ce dernier constate le décès, mort subite par arrêt cardiaque survenu aux alentours de 23h la veille au soir. S'enclenche alors le rituel immuable depuis des siècles et qui, se dit-on parfois, le mérite de repousser un temps les doutes, les questions et les incertitudes. Arrivé sur place, le cardinal Villeneuve, qui fait aussi office de carmelingue en charge de la chambre apostolique, frappe les trois coups symboliques de son petit marteau d'or, brise l'anneau du pêcheur que le défunt porte au doigt et scelle les appartements. C'est à 7h34 que l'information est diffusée sur Radio Vatican, puis reprise par tous les médias.
Un seul titre ce matin dans cette édition, un titre énorme, le pape Jean-Paul Ier est mort. La nouvelle est tombée il y a un quart d'heure à peine, nous vous l'avons bien sûr annoncé aussitôt. Pascal Delannoy, vous êtes donc en direct avec nous, bien sûr, en ligne de Rome. Ici à Paris, nous n'avons pour l'instant que très peu de détails sur la mort de Jean-Paul Ier. Est-ce que vous en avez davantage du côté du Vatican ?
Non, pas davantage. La nouvelle nous est arrivée il y a environ trois quarts d'heure, une demi-heure. Je vous la lis telle qu'elle a été annoncée. Le pape Jean-Paul Ier, âgé de 66 ans, est mort ce matin à 5h30. Il est mort dans son lit et la mort est survenue donc pendant son sommeil. Première explication des médecins, une crise cardiaque. C'est le père Panchiroli qui a fait cette annonce du décès de Jean-Paul Ier.
Ce vendredi 29 septembre 1978 au matin, les catholiques du monde entier sont sous le choc. Après seulement 33 jours et 6 heures de règne, l'Église se retrouve de nouveau sans pape. Pourtant, dans ce laps de temps si court, Jean-Paul Ier avait réussi à s'imposer comme une évidence. Alors, qui était Albino Luciani ? Quel est son parcours ? Quelles sont ses idées ? Quelle empreinte laissera-t-il ? Pour répondre à ces questions, il faut remonter quelques semaines en arrière, au milieu de l'été, au moment de la mort de son prédécesseur.
Paul VI est mort. Les 700 millions de chrétiens du monde entier sont en deuil. Et ils ne sont pas les seuls. Ils sont nombreux, ici et là, juifs, musulmans, athées, à avoir été frappés par la brutale disparition du Saint-Père. C'est que Paul VI aura marqué son époque. L'Église catholique romaine a, sous son impulsion, changé profondément. Contrairement à la fin de Pie XII ou celle de Jean XXIII, dont les agonies avaient été longues et dramatiques, Paul VI, que l'on savait malade, s'est éteint doucement, hier soir, à 10h20.
Le 6 août 1978, Paul VI, pape depuis 15 ans, décède. Comme le veut la tradition, trois semaines plus tard, les cardinaux entrent en conclave pour élire son successeur. C'est la première élection depuis la fin du Concile Vatican II. Initié en 1962 par Jean XXIII, ce pape dit de transition, souverain pontif, et qui révolutionna l'Église. Car le Concile, initié par ce pape débonnaire et profondément moderne, fait entrer l'Église dans son temps. Il l'a fait séculaire quand elle n'était que régulière, en initiant de profondes orientations et rénovations sur des questions comme l'ouverture au monde, justement, le dialogue avec les autres religions, ou le ripollinage de la liturgie jusqu'à l'organisation ecclésiastique. Si cette importante réorientation provoque des oppositions, voire des ruptures, comme celle de Mgr Lefebvre, la mission du conclave est d'élire un pape qui en défendra l'héritage et en assurera la continuité. Ainsi, lorsque les portes de la chapelle Sixtine se referment le 26 août 1978 au matin, que ce soit les commentateurs à l'extérieur ou les 111 cardinaux en charge d'élire le nouveau souverain pontife à l'intérieur, tous sont unanimes, ce conclave risque de durer plusieurs jours. En réalité, un consensus autour du candidat idéal se dessine rapidement. Paul VI, d'abord, dans son testament, a demandé que deux conditions soient respectées. Que le futur pape n'appartienne pas à la curie et qu'il ait moins de 80 ans. Pour les cardinaux électeurs, il devra être pasteur, c'est-à-dire homme de terrain et d'action, et aussi italien. Alors, parmi la liste des papabili, deux noms se détachent. Celui du cardinal Giovanni Benelli, 57 ans et archevêque de Gênes, et celui de Giuseppe Siri, 62 ans et archevêque de Florence. Mais aucun des deux ne fait consensus. Le premier craint pour son influence trop grande, quand le second paraît trop conservateur. Giovanni Benelli se rend rapidement compte qu'il n'a aucune chance. Et c'est lui qui soumet l'idée d'Albino Luciani, une candidature d'union. L'idée est acceptée, et aux deux premiers tours de scrutin, l'archevêque de Venise arrive en tête. Au troisième, ce dernier prend peur et déclare qu'il refuse de devenir pape. L'intervention du cardinal Villo, le secrétaire d'État qui prononce un discours vibrant en faveur de Luciani et la pression de nombreux cardinaux, finissent de convaincre le Vénitien. Au quatrième tour de scrutin, il est élu par 98 voix sur 111 et contre toute attente, à l'issue du premier jour de conclave, le plus bref des quatre derniers siècles, la fumée blanche apparaît dans le ciel romain.
Tout de suite, un appel de Rome de François Foucard. Alors François Foucard, des nouvelles, ça y est?
Oui, écoutez, c'est officiel, cette fois le pape est élu. Je garde l'antenne bien entendu, pouvoir vous dire son nom dans quelques instants. Je vous décris ce qui se passe sous notre fenêtre. La foule est amassée place Saint-Pierre et à l'instant, on vient d'ouvrir les fenêtres de la loggia. Voici un cortège qui s'avance avec une croix de procession. Et un cardinal entre deux prêtres. C'est ce cardinal qui va nous annoncer l'habemus papam.
Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Sancte Romane Ecclesiae cardinalem Luciani. Tibi nomen imposuit Ioannis Pauli I.
Un sourire, oui, un sourire simple, naturel, sincère. Tous, sur la place Saint-Pierre ou devant leur télé, remarquent ce rictus qui illumine le visage du nouveau souverain pontife. Un détail qui vaudra surnom, Jean-Paul Ier sera désormais le pape au sourire. L'effet est quasiment immédiat. Une vague de sympathie gagne les fidèles et les journalistes dès l'apparition de l'heureux élu. Un peu comme ce fut le cas en 2011 lors de l'élection du pape actuel François. La deuxième réaction est celle de la surprise. Les commentateurs avisés de la vie vaticane ont beau consulter leurs fiches, le nom d'Albino Luciani n'apparaît nulle part dans leur liste de papabili. On s'intéresse alors au parcours de cet homme de 65 ans, réputé discret et humble. C'est à Canale d'Agordo, un petit village de montagne au nord de Venise, qu'Albino Luciani naît le 17 octobre 1912 dans une famille très pauvre. Si sa mère est une fervente catholique, son père ouvrier est plutôt connu pour ses idées socialistes. De cette origine duale, Albino Luciani fera une force. Il emprunte la catholique voie maternelle, mais il la balise de son souci des injustices sociales. Ordonné prêtre en 1935, il poursuit ses études à Rome. Il est nommé évêque de Vittoria Veneto, et comme la plupart des prélats de sa génération, il se retrouve plongé au cœur du Concile Vatican II. À son issue, Paul VI le convainc d'accepter le patriarcat de Venise. À retracer ou découvrir son parcours, tous en conviennent, Albino Luciani présente les traits du pape idéal, l'homme du compromis. Un pastoral, d'origine humble, ferme sur les principes et les questions de foi, mais compréhensif et ouvert au monde. Il renvoie l'image de la synthèse désirée par le clergé et les fidèles, entre modernistes et conservateurs, dans une église confrontée aux divisions post-conciliaires et aux relations avec les états communistes d'Europe de l'Est. Une image qu'il renvoie d'emblée à l'occasion de sa première bénédiction.
Et toujours cette ambiance extraordinaire, place Saint-Pierre.
Oui, toujours cette ambiance. Le pape fait des signes, je ne sais pas très bien ce qu'il attend pour donner son... il fait des signes des deux mains, on dit... C'est assez amusant, à gauche, à droite. Je pense qu'il ne va pas tarder maintenant à donner sa bénédiction. On avance un micro. Voilà.
Sancti apostoli Petrus et Paulus, de quorum potestate et autoritate confidimus, ipsi intercedan pro nobis ad Dominum.
Le choix du nom Jean-Paul Ier illustre la manière dont Albino Luciani compte mener son pontificat avec volonté, modestie et inscription dans la continuité de ses prédécesseurs. Cette humilité, cette simplicité, on la trouve aussi dans le dépouillement cérémonial. Il abolit la tradition du couronnement par la tiare, refuse dans ses premiers déplacements l'utilisation de la chaise pontificale. Pour le reste, il compte bien poursuivre ce qu'il faisait à Venise, un catéchisme in briciole, brin par brin, titre d'ailleurs de l'un de ses ouvrages. Ainsi, Jean-Paul Ier surprend, ses discours sont parfois improvisés. Lors de ses premières cérémonies, il n'hésite pas à dialoguer avec des enfants choisis dans l'assistance, il détonne par sa franchise et certaines de ses déclarations. L'usage de la première personne du singulier quand ses prédécesseurs s'en tenaient au nous solennel et majestueux ne passe pas inaperçu. Les catholiques mettent peu de temps à rejoindre l'avis du cardinal polonais Karol Wojtyla, futur Jean-Paul II, qui déclare « Nous avons élu un pape magnifique ». On comprend alors la tristesse et l'effroi qui touchent l'ensemble des fidèles lorsqu'un mois plus tard, le matin du 29 septembre 1978, le communiqué du Vatican confirme la mort du pape au sourire.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Tous ceux qui se sont réveillés ce matin en apprenant la mort du pape ont dû avoir l'impression de vivre une deuxième fois un mauvais rêve. C'était pourtant bien de Jean-Paul Ier qu'il s'agissait.
C'est avec une grande émotion que le peuple français vient d'apprendre le deuil qui frappe à nouveau l'Église en la personne de sa sainteté, le pape Jean-Paul Ier.
C'est peut-être aussi un appel à être plus réaliste et puis à faire notre travail les uns et les autres pour bâtir cette Église de Dieu que j'aime de tout mon cœur et qui donne pas mal de soucis à ceux qui l'aiment.
La réaction la plus incroyable vient sans doute des intégristes. L'abbé Ducos-Bourget a déclaré « Mon hypothèse est que des suppôts de Satan en chair et en os sont peut-être les causes de ces deux crises cardiaques si rapprochées au Vatican. »
C'est avec une grande émotion que j'ai appris cette nouvelle. Il y a 3 semaines, je lui ai été présenté à l'occasion de la cérémonie d'intronisation et j'avais pu admirer sa fermeté sous un sourire que personne ne pourra oublier.
Peut-être a-t-on eu dans l'Église l'impression d'avoir trouvé l'homme miracle, celui qui allait résoudre tous les problèmes. Ma première réaction, c'est de dire « le Seigneur se fiche de nous ».
Rome pleure dans cette triste matinée du 29 septembre 1978. Il faut remonter à 1605 pour trouver trace d'une pareille situation lorsque Léon XI est mort après seulement 4 semaines de règne. La stupeur, la tristesse, mais aussi une certaine perplexité. Comment interpréter en effet cet incroyable scénario ? Dieu a-t-il voulu adresser un message particulier à l'heure où l'Église est confrontée à de nombreux défis et qu'elle a justement besoin de stabilité ? Les cardinaux se sont-ils trompés de candidats ? La santé d'Albino Luciani était-elle fragile ? Avait-il les épaules assez solides pour supporter cette charge, lui qui l'avait d'abord refusée ? Si Rome pleure en cette matinée du 29 septembre, c'est aussi parce qu'elle doute. Et ce qui devait arriver arrivera, les interrogations vont ouvrir la boîte à rumeurs et à fantasmes.
over the cage and wait for the doorbell to ring.
Ce matin, place Saint-Pierre, il pleut, il fait plutôt froid. Des jeunes de l'Action catholique distribuent une carte représentant Jean-Paul Ier. Sous la photo, en lettres rouges, ces mots: Arrivederci in paradiso, Papa Giovanni Paolo. Nous nous reverrons au paradis, Pape Jean-Paul.
Le brutal décès du souverain pontife, Jean-Paul Ier, frappe le monde de stupeur et accable la chrétienté de chagrin pour la deuxième fois en moins de 2 mois.
Je suis bouleversé, je pleure le pape, j'ai prié pour le pape, j'ai prié pour l'Église, car notre pauvre Église, elle est bouleversée en ce moment.
Malgré tout, c'est un pape politique, ne l'oublions pas, qui condamnait nettement les rapprochements existants dans le domaine pur de la politique italienne entre la démocratie chrétienne et le monde communiste.
La mort subite de Jean-Paul Ier a aussi, il faut le dire, enfiévré certains esprits à Rome. C'est vrai que son destin aura été étrange et sa mort tragique. C'est vrai aussi que certains prélats y ont cru voir depuis hier quelque chose de mystérieux.
Le 1er octobre 1978, alors qu'une partie du monde a les yeux tournés vers les obsèques de Jean-Paul Ier, les questions surgissent. Au cœur des débats, la santé du pape. L'annonce des causes du décès, une mort subite par infarctus du myocarde, monopolise l'attention des observateurs. Les premiers témoignages des proches de Jean-Paul Ier abondent dans ce sens. On rappelle que ses chevilles étaient régulièrement enflées, le signe d'une mauvaise circulation du sang. On se souvient qu'en 1975, au retour d'un voyage au Brésil, il avait eu également un souci à l'œil. Lui-même, à plusieurs reprises, a indiqué qu'il souffrait. À l'audience générale du 27 septembre, à la veille de sa mort, il aurait dit à son assistance « Il faut que vous sachiez que votre pape est allé 8 fois à l'hôpital et qu'il a subi 4 opérations ». Pierre Géraud, un prêtre français et ancien médecin qu'il a rencontré le 23 septembre, quelques jours seulement avant sa mort, témoigne « J'ai baisé la main d'un mort en sursis ». Le pape aurait dû consulter un cardiologue au plus vite, ajoute-t-il. Au-delà de ces témoignages, plutôt inquiétants, le pape lui-même n'a pas ressenti le besoin urgent de consulter. Les problèmes qu'il affecte peuvent être liés à la fatigue, et puis, à son âge, ils sont normaux et ne provoquent pas forcément d'inquiétude. D'ailleurs, pour le frère du pape, il était en bonne santé.
Il n'était pas malade, son médecin me l'a tout récemment confirmé. Il est possible que le poids des responsabilités qui lui sont échues soit pour quelque chose dans sa mort. Pourtant, son cœur était solide, il avait jadis des ennuis de santé, mais ces temps derniers, il allait bien.
Alors, pour essayer de comprendre, on interroge des médecins sur les causes et les explications de cette mort subite.
La crise cardiaque qui a emporté le pape Jean-Paul Ier est peut-être due à ce que les médecins appellent le stress. La tension physique et morale qui s'est brusquement abattue sur les épaules de cet homme de 65 ans est peut-être à l'origine de cette crise cardiaque aiguë qui l'a emporté 34 jours seulement après son couronnement.
Monsieur, est-ce que ces infarctus foudroyants sont fréquents ?
Oui. En fait, si vous voulez, beaucoup d'entre eux s'inscrivent dans le cadre de ce qu'on appelle la mort subite. Et le diagnostic est souvent fait rétrospectivement, mais je crois qu'il y a quand même au moins 20% des infarctus qui, d'emblée, donnent un aspect que vous appelez foudroyant.
Pour la plupart des proches du pape et des cardinaux, c'est du côté de la charge et de la personnalité de Jean-Paul Ier qu'il faut tenter de trouver les raisons de cette mort. Albino Luciani n'était sans doute pas préparé à assumer une telle charge de travail et de telles responsabilités. Contrairement à ses 5 prédécesseurs, il n'a jamais travaillé à la curie. Jusqu'à présent, ses écrits se résumaient à des lettres adressées à Jésus, Walter Scott ou Pinocchio. Mais oui, un pédigré qui ne manque pas d'être raillé par certains prélats sortis des grandes écoles vaticanes. Le secrétaire d'État, le cardinal Villot, se souvient des doutes et des difficultés ressenties par ce pape au moment où il lui a apporté des centaines de dossiers quotidiens, témoignages d'une mission sans commune mesure, diriger une église d'1 milliard de fidèles répartis dans 110 pays, confrontés à un contexte international tendu. Alors voilà, dès l'annonce de la terrible nouvelle, la réalité s'impose. Ce pape qui avait fait si rapidement l'unanimité n'était pas prêt à assumer la charge suprême. Il est grand le mystère de la foi, disent les catholiques. Il est bien plus grand en tout cas que celui de la mort du pape. Si en effet, l'explication de ce décès au bout d'un mois de pontificat tenait tout simplement au choix des cardinaux électeurs qui auraient élu un homme malade et fragile. Son secrétaire John Magee rapporte une anecdote en forme de confession. Quelques semaines après son élection, Jean-Paul Ier lui a dit « Je vais partir et je serai remplacé par l'étranger. »« Ah bon, quel étranger ?» lui demande John Magee. Ben « Celui qui était en face de moi, au consistoire, » répond le pape. À la mort de ce dernier, John Magee s'empresse de consulter le plan du consistoire. Et l'étranger, en face d'Abino Luciani, était un cardinal polonais du nom de Karol Wojtyla. Et le 16 octobre 1978, c'est bien lui qui est élu et qui prend le nom de Jean-Paul II en hommage à son prédécesseur et ami. Voilà, l'histoire aurait pu s'arrêter là. L'Église catholique, une fois la surprise et la tristesse passées, s'appuyant sur l'immuable et millénaire tradition, allait surmonter cette nouvelle épreuve. Oui, mais c'était sans compter sur le travail de plusieurs journalistes qui, quelques années plus tard, reviendront sur cette version de l'affaire. En France, c'est d'abord l'écrivain Roger Perfitte qui soutient la thèse de l'assassinat dans son livre « La soutane rouge », publié en 1983.
Roger Perfitte.
Oui, pour vous, l'ancien pape a été assassiné, quoi.
Oui, c'est évident.
Vous
oui.
en êtes parfaitement
Jean-Paul
sûr.
Jean-Paul Ier.
Absolument. Jean-Paul Ier a vraiment été assassiné.
Je suis en relation dans la vie italienne avec des gens qui sont tellement bien placés pour savoir ce qui se passe au Vatican. Un de mes grands amis, qui est neveu d'un cardinal, est presque un fils de l'Église, n'est-ce pas ? Des gens fort au courant de ce qui se passe de plus secret dans la vie politique italienne. Par conséquent, j'avais déjà, n'est-ce pas, les grandes lignes de ce livre, et quand je lui ai dit que j'imaginais d'écrire un roman policier que m'avait demandé notre ami Simone Gallimard pour inaugurer une série intitulée « Crime parfait », vraiment, mais il fit un petit saut sur place, il me dit « Écoute, je sais tous les dessous de cela ».
Pour comprendre comment naît cette thèse, il faut remonter au jour de la mort de Jean-Paul Ier, surtout aux conditions dans lesquelles celle-ci a été annoncée. Écoutons d'abord le communiqué officiel du Vatican, daté du 29 septembre 1978 au matin.
Oui, Pascal Delannoy, je vous arrête une seconde. J'ai sous les yeux un télégramme qui vient de me parvenir. C'est le communiqué officiel du Vatican. Le communiqué officiel qui annonce donc la mort du pape. Ce matin, 29 septembre 1978, vers 5h30, le secrétaire particulier du pape, le père Magee, est entré dans la chambre à coucher du pape Jean-Paul Ier, ne l'ayant pas trouvé dans la chapelle comme d'habitude. Il l'avait cherché dans sa chambre. Et c'est là que le père Magee a trouvé le pape mort dans le lit avec la lumière allumée comme s'il lisait. Le médecin est arrivé, il a constaté le décès, intervenu probablement, dit ce médecin, vers 23h, vers 11h hier soir. Le 28 septembre, par mort soudaine, due à un infarctus, le genre de problème cardiaque qui ne prévient pas.
Ce qui intrigue les premiers articles qui mettent en doute la version officielle, ce sont les erreurs et approximations des autorités vaticanes. Elles sont de plusieurs ordres. D'abord, la découverte du corps par John Magee. Or, Sœur Vincenza certifie que c'est bien elle qui l'a trouvé. Alors pourquoi avoir dissimulé la vérité ? Eh bien, parce qu'il n'est pas concevable de dire que le pape est réveillé chaque matin par une sœur, répondent les spécialistes du Vatican. Ensuite, pourquoi un tel empressement dans le diagnostic du décès, puis dans la toilette mortuaire et l'embaumement du corps ? Pourquoi ne pas avoir pratiqué l'autopsie pour être certain des causes de la mort ? Si le pape a réellement succombé à un infarctus du myocarde, comment expliquer que le Vatican dise qu'il est mort avec un sourire figé, en position assise, en train de lire ? La douleur provoquée par un arrêt cardiaque, disent les médecins, rend impossible une telle affirmation. Un proche du pape affirme que le soir de sa mort, aux alentours de 22h, il a appelé son médecin personnel à Venise, qui lui a conseillé de prendre un médicament, de la digitaline. La pharmacie du Vatican aurait été ouverte en urgence. Mais a-t-il pris ce remède, dont les doses doivent être scrupuleusement respectées ? Comment a-t-il pris ce médicament ? Une fois encore, le Vatican répond qu'autopsier le souverain pontife ne se fait pas. Autre point. Où sont passées les affaires du pape, ses lunettes, ses chaussons, ses papiers ? Que lisait-il le soir de sa mort ? On a d'abord dit que c'était un texte religieux. D'autres affirment qu'il travaillait sur un sermon, les derniers qu'il s'agissait d'un projet de réforme. Pourquoi de nouveau un tel empressement à vider ses appartements ? À partir de ces questions et de ces doutes, plusieurs journalistes y ont vu les traces d'une dissimulation révélatrice d'un complot. Le premier d'entre eux est anglais. Il s'appelle David Yallop. En 1984, dans un livre intitulé « Au nom de Dieu », il retrace l'ensemble de son enquête. Et son éditeur français explique sa thèse.
C'est d'abord une histoire à la Agatha Christie, le fameux sujet... du meurtre dans une chambre close. Là, il se trouve que cette chambre close, c'est le Vatican. Et on a d'abord une formidable enquête policière sur les conditions dans lesquelles on a retrouvé et on a truqué, on a arrangé les détails, les indices qui étaient dans la chambre du pape. Et à partir alors, de ces constatations sur les conditions fort peu naturelles de la disparition de ce pape, l'auteur s'est livré à une véritable enquête sur ce pape. On essayait de nous le faire passer pour un benêt ou presque pour un simple d'esprit. C'était un homme qui parlait six langues, c'était un homme qui correspondait avec les plus grands théologiens contemporains. C'était certainement un homme qui aurait transformé considérablement l'Église. Et c'est la raison, je crois d'ailleurs, pour laquelle on l'a assassiné.
Admettons, mais à qui profite le crime? Pour Yallop, le principal suspect s'appelle Paul Marcinkus. Du haut de son 1,90 m et de son franc-parler, cet archevêque américain est à la tête depuis plusieurs années de l'IOR, l'Institut pour les œuvres de religion, autrement dit la Banque du Vatican. Or, un garde suisse du nom d'Hans Rogen affirme l'avoir vu à l'aube le jour de la mort de Jean-Paul Ier. Mais qu'est-ce qui aurait motivé Paul Marcinkus à organiser un assassinat? Pour le comprendre, écoutons une information sortie peu de temps après l'élection du pape en septembre 78.
À Rome, toujours un pavé dans la mare pontificale lâché par le magazine italien Il Mondo, dans une lettre ouverte au pape, cet hebdo demande s'il est normal que le Vatican agisse comme un spéculateur ordinaire sur les marchés financiers. Il Mondo demande par la même occasion à Jean-Paul Ier de remettre un peu d'ordre dans les finances du Vatican.
À peine arrivé sur le trône, en effet, Jean-Paul Ier est averti des malversations financières au sein du Vatican. Une copie de l'office de contrôle boursier signée de la main du ministre italien du commerce extérieur met en cause certaines pratiques de la Banque du Vatican et de son directeur John Marcinkus. Le pape ordonne alors à son secrétaire d'État, le cardinal Villo, de lancer une enquête. Les résultats mettent peu de temps à arriver. Il semblerait que l'IOR échappe au fisc italien depuis de nombreuses années, et pire encore, que l'établissement n'est pas là pour les bonnes œuvres, mais bien pour faire de l'argent. Au cœur de ce système, Paul Marcinkus, dont certaines relations sont plus que troubles. L'homme est proche d'un banquier sicilien, Michele Sindona, connu pour être lui-même proche de la mafia, puis d'un certain Roberto Calvi, surnommé le banquier de Dieu, homme aux affaires troubles et proche de la loge franc-maçonne illégale P2, dont certains cardinaux, que certains cardinaux de la curie, fréquenteraient. Pour Jean-Paul Ier, ces dérives sont inacceptables, d'autant qu'elles jettent une ombre sur le pontificat de son prédécesseur Paul VI, qui était forcément au courant des malversations présumées de Paul Marcinkus. Jean-Paul Ier réalise qu'il est à la tête d'une église devenue capitaliste, bien loin de son souci de la souffrance des plus humbles. À peine arrivé au pouvoir, il en est convaincu, il faut absolument réformer le partage des pouvoirs dans le but d'un retour à la simplicité de l'église. Au cours d'une réunion avec le cardinal Villo, le jour de sa mort, il lui annonce son intention de le remplacer par le cardinal Benelli au poste de secrétaire d'État et surtout de révoquer Paul Marcinkus de la Banque du Vatican. Il n'en aura pas le temps. Pour Yallop, la décision prise par son successeur Jean-Paul II de maintenir Paul Marcinkus ajoute au trouble et accrédite la version. Et puis, Michele Sindona et Roberto Calvi seront condamnés par la justice et respectivement retrouvés morts quelques années plus tard, le premier empoisonné dans la prison, le second pendu sous un pont à Londres. Ça fait beaucoup. Quoi qu'il en soit, si près de 40 ans après, la thèse de l'assassinat n'est pas encore parvenue à produire des preuves solides, elle a permis de voir sous un autre jour le cours pontifical de Jean-Paul Ier. Derrière cet homme humble et modeste se cachait un homme d'action et de réforme. Une réalité qui, pour nombre de catholiques, renforce les regrets de ne pas avoir vu ce pontificat s'étendre plus loin que le temps d'un sourire.
Gaze at the ceiling from below, a splendid Michelangelo. Fill my heart with delight that Saturday night. I arrived believing from home,
every step inside St. Peter's dome. Claustrophobic and ex-Catholic last Saturday night. Now how come nobody really noticed? Puff of white smoke knocked me out. Truth is hiding, lurking, banking. Things I do at night. It's quite suspicious, to say the least. Even mentioned it to my local priest. One of all the three Hail Marys each Saturday night.
Let's hear Count 'em all, Chingers.
It's only a show. And I'll confess, oh no, let's face it, in my concrete tuxedo. It's quite suspicious, to say the least. While mentioning it to my priest, one of all the three Hail Marys each Saturday night.
France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, la mort mystérieuse ou pas, c'est bien le problème de Jean-Paul Ier. Nous allons en parler avec notre invité Bernard Lecomte. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, écrivain, spécialiste de la religion catholique et auteur du livre que j'ai entre les mains qui s'appelle « Dictionnaire amoureux des papes chez Plon ». Quand on signe un dictionnaire amoureux dans cette immense collection de chez Plon, c'est qu'on est intronisé spécialiste, non?
Vous savez, moi je suis journaliste, en 35 ans de métier, j'ai découvert deux endroits, 20 ans de ma vie c'est le Kremlin et 15 ans de ma vie c'est le Vatican. Alors je connais aucun autre endroit dans le monde que ces deux lieux qui sont des lieux de pouvoir. Le Kremlin comme le Vatican, c'est des endroits, ce sont des mines d'or pour les journalistes, puisqu'il s'est passé des choses inouïes, des secrets incroyables, des rencontres incroyables. Le Kremlin comme le Vatican sont des lieux où les secrets, les mensonges, les turpitudes, les fantasmes sont à foison. Et pour un journaliste, encore une fois, c'est un endroit où il suffit de se baisser pour ramasser les histoires, les belles histoires.
Vous étiez en poste à Rome quand le pape Jean-Paul Ier est mort?
J'ai jamais été en poste à Rome.
Vous travaillez auprès du Vatican ou
mais
pas?
Non, pas à cette époque-là. À cette époque-là, j'étais encore, moi, sur le Kremlin.
D'accord.
Moi, j'ai commencé à m'intéresser au Vatican avec le pape polonais, celui qui a fait, au fond, le trait d'union entre les affaires du Kremlin et le monde communiste et le Vatican. C'est à partir de Jean-Paul II que j'ai commencé à m'intéresser de près au pape et de fil en aiguille, de livre en livre. Voilà, je suis devenu une sorte de papologue.
Est-ce que vous vous souvenez des premiers temps de ce très court pontificat de Jean-Paul Ier? Il y a une sorte d'unanimité autour de ce pape qui pourrait se résumer dans cette phrase. Il aurait été un grand pape.
Alors ça, on peut toujours dire ça de,
bien sûr,
de
enfin,
qui on veut.
Il avait donné des signes. Quand même,
je préfère l'allusion que vous avez faite tout à l'heure dans votre récit, Fabrice, à une situation quasiment politique, je dirais presque électoral, c'est pas le moment d'employer ce mot qui commence à rebuter un peu, mais c'était presque ça. Pour succéder à Paul VI, il y avait deux papabili, il y avait Benelli et Siri. C'était les deux candidats, ils étaient quasiment au second tour d'une élection. Et Benelli, c'était l'archevêque de Florence, Siri, l'archevêque de Gênes. Siri était un très conservateur. Très conservateur. C'était le chef de file de tous ceux, au fond, qui n'appréciaient pas tout ce qui s'était passé depuis le Concile. Et puis Benelli, qui était, faut pas dire réformiste, faut pas exagérer, mais c'était un moins conservateur, un peu plus moderne.
Plus centriste.
Un peu plus, oui, si vous voulez. Voilà, si on peut continuer la comparaison. Et Benelli a compris que si par hasard ça devait se jouer entre les deux, d'abord ça ferait du mal à l'Église, parce que l'Église serait un peu coupée en deux, comme à chaque fois qu'il y a deux
tendances.
Et donc Benelli a été très intelligent, c'est lui qui a proposé, au fond, d'emblée, un candidat, un trait d'union qui ne gêne personne,
Je souligne. Le fameux pape de transition. Alors, parce qu'il y a aussi, pardon de vous couper, mais il y a aussi cette tradition au Vatican. On met des papes de transition. Sauf que quelquefois, on se fait avoir. Parce que Jean XXIII, soi-disant pape de transition, a été probablement le pape le plus moderne, le plus réformateur de l'histoire de séculaire, hein, de la papauté.
C'est d'ailleurs pour lui que l'expression avait été inventée, pape de transition. Et vous avez raison, Roncalli, Jean XXIII, c'est lui qui a convoqué le concile, qui est la plus grande révolution dans l'histoire de l'Église moderne. Sûr. Donc méfions-nous, comme vous dites, des papes de transition. Mais pour ce qui est de Jean-Paul Ier, on est allé chercher ce brave cardinal, patriarche de Venise. Pourquoi je dis brave? Il n'y a aucun mépris dans mon propos, mais Venise, vous connaissez Venise, vous êtes sûrement allé un jour à Venise. Venise, franchement, le patriarche de Venise, c'est un curé de paroisse. Mmh. C'est pas un grand archevêque comme ceux de Gênes, Milan, de Turin ou Milan, comme vous dites, qui sont des états comme dans l'état.
Cardinal
c'est
Martini,
énorme.
Qui était un grand.
Voilà, c'était des grands personnages. Celui-là, vous savez, régulièrement à Venise, c'est un gars qui est plutôt en pré-retraite, quoi. Mmh. Et c'était un peu le cas d'Albino Luciani, qui était un brave homme, fils d'ouvrier, qui avait pas fait de grandes études. J'entendais tout à l'heure dans l'émission que quelqu'un disait, il parlait couramment 6 langues. Pas du tout. Non. C'était un brave homme qui parlait très bien l'italien et le latin. Parlait un peu l'anglais, mais c'est tout. C'était pas Joseph Ratzinger, c'était pas Karol Wojtyła.
Qui est devenu Benoît XVI.
Qui est devenu Benoît XVI, l'autre est devenu évidemment Jean-Paul II. Ça, c'était des grands. Franchement, Albino Luciani, avec tout le respect qu'on doit à un patriarche de Venise, c'était un brave curé de campagne. Vous avez cité tout à l'heure les livres qu'il avait écrits. C'était des dialogues avec Charles Péguy et Pinocchio. Vous voyez, c'était gentil.
Oui,
il était magnifique quand il s'adressait aux enfants. Les gens adoraient l'entendre parler en audience générale, parce qu'il s'adressait en général aux enfants qui étaient là, et en effet, c'était un magnifique conteur, il racontait Jésus magnifiquement aux enfants. Il parlait très bien aux malades, il parlait très bien aux uns et aux autres, mais enfin, voilà, c'était pas un grand théologien, c'était pas un grand politique, c'était un homme qu'on a placé là parce que c'était un pasteur. Un pasteur, un gars qui était encore une fois un sympathique curé de paroisse qui allait apporter à l'Église un peu d'apaisement. Parce que n'oublions pas que l'Église...
J'ai demandé pourquoi on a cherché ce profil-là. Et vous dites, vous, apaisement. Okay.
Voilà, alors
pourquoi
parce que l'Église, tout simplement, donc on est en 1978, l'Église sort de deux épreuves absolument colossales qui l'ont énormément bouleversée. C'est d'abord le Concile, dont on parlait à l'instant. Le Concile, rappelons que c'était cette réunion qui a duré 3 années, presque 4, avec 2500 évêques à Rome pour tout changer dans l'Église. C'était une révolution dans l'histoire de cette institution deux fois millénaire. Et puis, deuxième événement qu'on a un tout petit peu oublié, mai 68. Mai 68 a été un tremblement de terre pour toute la catholicité, pour tous les chrétiens du monde, d'ailleurs pour toutes les religions des pays occidentaux. Les catholiques français se rappellent tous, évidemment, ces moments extrêmement complexes. Mai 68 a été un vrai bouleversement aussi pour l'Église. Et Paul VI a été ce pape politique qui a succédé donc à Jean XXIII, l'homme qui avait convoqué le concile. Et Paul VI, c'était un intellectuel très politique. On a oublié ça aussi, mais le père de Paul VI était un homme politique. C'était un élu, un syndicaliste. Paul VI est le premier pape fils d'homme politique.
Alors dites-moi, si on voulait un pape d'apaisement ou moins politique, on s'est bien trompé, parce que celui qui arrive après, Jean-Paul II, est le plus politique des papes politiques.
Ça, c'est clair.
Il participe quand même à la chute du mur de Berlin. Il y participe. Il est l'un des acteurs.
Voilà, mais si vous le permettez, on le saura après.
On sort après.
Parce que sur le moment, en 78, l'objectif, c'est justement pas trop de vagues, revenons un petit peu aux fondamentaux, et avec un pasteur gentil qui a, comme vous le rappeliez, Fabrice, tout à l'heure, qui a un très beau sourire, on l'appelait le pape au sourire, eh ben, on allait tranquillement continuer comme avant, et on allait remettre un peu de calme dans tout ça. Pas de chance, le Saint-Esprit n'a pas voulu que ça se passe comme ça. Hein. Au bout de 33 jours, il a mis fin à la vie de ce pape, qui était incontestablement un brave homme, qui, vous l'avez rappelé aussi, ne voulait pas être pape. Quand il a compris que ça serait lui, l'homme de la transition, il a dit non, pas moi. Il n'a pas été le seul dans l'histoire des papes à dire ça. Presque tous les papes ont quasiment refusé. Parce que, franchement...
La charge est trop lourde.
N'oublions pas ça, c'est que pape, c'est quand même un travail de fou, c'est surhumain. Et quand je dis surhumain, je pèse mes mots. Les hommes qui sont des cardinaux de longue date sont pas fous. Ils savent très bien que c'est un travail surhumain. Et en plus, à l'époque, on en sort les pieds devant, puisque on n'a pas encore l'innovation de Benoît XVI qui a démissionné.
Il faut, si on veut comprendre ce que peut ressentir un pape quand il est élu, il faut voir le film de Nina Moretti. Hein.
Exactement.
Abemus Papam, formidable.
Exactement.
Formidable.
Et,
bon, voyez, c'est une fable, mais c'est formidable.
Moretti a fait, il a en effet fait, c'est une farce à l'italienne quand
c'est
on
génial.
Voit les cardinaux jouer au volleyball. Bon. Mais Moretti c'est évidemment inspiré du cas de Jean-Paul Ier. Ce pape qui ne voulait pas être pape, et puis qui finalement a dit oui, parce que voilà, avec l'aide de la Vierge Marie, avec ma foi, et puis tous ces gens-là qui vous disent, mais si, faut accepter. En réalité, à chaque conclave, la scène du film de Moretti où vous voyez ces hommes habillés de rouge, avec la barrette, cette espèce de chapeau étrange comme ça, et qui font « Non Seigneur, pas moi Seigneur !» Vous vous rappelez cette scène absolument extraordinaire?
Elle est géniale, c'est le
génial. Eh ben cette scène, elle se produit effectivement à chaque conclave. Alors évidemment c'est moins drôle et c'est pas filmé par un grand cinéaste comme Moretti, mais ça se produit à chaque fois. Jean-Paul Albino Luciani, quand il devient Jean-Paul Ier, en fait, il le devient un peu malgré lui. Il n'est pas comme Piccoli dans le film qui crie non à la dernière minute, non, mais je pense qu'il l'a pensé très fort, en tout cas. Alors, il accepte, et très vite, il se rend compte qu'il a commis une erreur. Il se rend compte quand il voit le cardinal Viot, le français, qui est le secrétaire d'État, qui, du matin au soir, lui apporte des piles de parapheurs, de choses à signer, des dossiers compliqués, des trucs diplomatiques, des machins théologiques. Le malheureux Luciani n'est pas préparé à la théologie. Il connaît rien à la diplomatie, il a très peu voyagé, cet homme-là. Comment voulez-vous qu'il fasse, justement, son travail
alors,
de pape?
Alors, est-ce que c'est ce qui l'a tué? Bon, fragile du cœur, il y a ce stress quotidien, presque, c'est, j'imagine, c'est cette angoisse, voire cette panique. Est-ce que ça peut expliquer son décès? Alors, vous n'êtes pas médecin, je sais bien, mais...
Non, mais justement, je ne suis pas médecin, mais lui non plus n'avait pas de médecin autour de lui. On oublie aussi ce petit détail. La mort de Paul VI, c'est le 6 août 1978. 6 août, on est en plein mois d'août à Rome. Vous voyez, la chaleur, l'ennui, pas de médecin à portée de main. Le médecin du pape vient de prendre sa retraite. Le docteur Fontana est parti, là, quelques jours avant. Il a pris sa retraite, tout simplement. Et son successeur, le docteur Bunazzotti, lui, n'a pas encore pris ses fonctions. Donc on est dans une espèce de... Il n'y a pas de médecin du pape à ce moment-là. Quand Luciani est élu, son propre médecin à lui, qui s'appelle Darros, est un médecin qui est à Venise, et puis qui est en vacances, on est au mois d'août. Il n'y a pas de médecin du pape. L'ancien n'est plus là, le nouveau n'est pas encore là, et le médecin personnel n'est pas au courant.
Bon.
Il est en vacances.
Donc c'est ce qui
vous explique pourquoi il y a toutes ces interrogations. Est-ce qu'il était en bonne santé ou pas? Non, il n'était pas en bonne santé. Le pape prenait des anticoagulants tous les soirs. Tous les religieuses qui le servaient, ses secrétaires ont tous confirmé ça. Non, il prenait des médicaments et il a été acquis que le soir où il rentre dans sa chambre un peu fatigué, comme vous l'avez raconté tout à l'heure, il n'a pas pris ses anticoagulants.
Alors, donc, il y a quand même des choses bizarres dans la façon dont le Vatican rapporte les événements tels qu'ils auraient été vécus et par le pape et par son entourage. Parce que le pape meurt au moment où commence notre histoire. Il y a des choses pas claires.
Non.
Et puis on se dit, est-ce que ce pape-là ne voulait pas nettoyer les écuries d'Ogia, ça, avec la banque du Vatican et compagnie? Est-ce qu'il n'aurait pas été assassiné pour toutes ces raisons? Alors ça peut apparaître comme une thèse du complot, mais c'est pas complètement incohérent non plus.
Évidemment, il faut bien comprendre que tout fait divers, toute mort suspecte, tout événement un peu curieux au Vatican provoque en avalanche des fantasmes, des théories invraisemblables, etc., qui ne sont pas toutes imaginaires. Vous avez eu complètement raison de rappeler tout à l'heure qu'il y a un certain nombre de choses qui sont étranges dans la mort de Jean-Paul Ier. Et il y a, effectivement, vous rappeliez David Diallop, qui est un de nos confrères britanniques, qui a fait un livre extraordinaire, qui s'appelle « Au nom de Dieu ». Alors David Diallop, lui, il a rassemblé tout ce qui touchait à la Banque du Vatican, à la franc-maçonnerie locale, à l'Opus Dei, aux jésuites. Il a fait un patchwork extraordinaire, entre parenthèses, chapeau l'artiste. Il a fait 2 millions d'exemplaires vendus dans l'année qui a suivi. Sauf que tous les faits qu'il rapporte ont été contestés par la suite. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune de ces affaires bizarres, alors justement ce qu'il aurait écrit, les papiers qu'il avait dans la main, pourquoi il n'y a pas eu d'autopsie, c'est les histoires de pantoufles, est-ce qu'il n'était pas en train de prendre des décisions extrêmement graves qui allaient peut-être bouleverser la vie de certains. Tout ça, petit à petit, a été expliqué une par une, ces hypothèses sont tombées à l'eau. Alors, ça n'empêche pas que, tiens, il n'y a pas eu d'autopsie. Non, parce que quand un pape meurt et qu'on a l'impression que c'est un infarctus, eh ben, il n'y a pas d'autopsie. Pourquoi s'inventer des problèmes qui ne se posent pas encore? On dit oui, mais le fameux Monseigneur Marcinkus, l'homme de la banque du Vatican, était le matin même, à 6h30, en train de rôder en dessous de la... Ben oui, c'était son bureau et il y allait tous les matins à 6h30. Qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas changer ces choses-là. Alors, petit à petit, toutes ces hypothèses nées, et soyons clairs aussi, reprise avec beaucoup de gourmandise par tous nos confrères italiens. Il faut savoir que nos confrères italiens à Rome adorent ce genre d'histoire. Dès qu'il y a un petit fait divers au Vatican, il faut lire, rien que pour le plaisir, la presse italienne, la presse quotidienne notamment, qui part alors comme sur les chapeaux de roue sur des histoires absolument phénoménales. Ils sont magnifiques, nos confrères italiens. Là, pour le coup, il reste effectivement des mystères. Moi, je ne suis qu'un journaliste, hein, je n'ai pas la clé définitive.
Mais vous penchez pas pour la thèse d'assassinat.
Non, je penche, moi, très clairement pour la thèse de cet homme qui n'était pas fait pour être pape, qui a beaucoup souffert d'avoir accepté, qui effectivement éprouvait un stress du matin au soir, ça
et,
on sait.
Et qui n'avait pas les médecins autour de lui.
En et gros, qui n'avait ça. Pas bon. Ses médecins autour de lui. Et donc, on est dans une espèce de flou un peu étrange, mais encore une fois, soyons humains, ce malheureux Luciani, il est très certainement mort, au fond, en confiant son sort à Dieu, et on a vu ce que Dieu en a fait.
Il me rappelle le pape François par certains aspects, notamment le côté pastoral, et déjà cette lutte qu'il entendait quand même mener, l'aurait-il mené, on ne sait pas, mais contre la richesse et l'opulence des représentants de Dieu au Vatican, qui ne colle pas avec la pensée catholique pure que à la fois François et Jean-Paul Ier semblaient vouloir porter.
Vous avez complètement raison. Les deux hommes, sur ce plan, sont très semblables. Ils ont cette espèce de réflexe, cette nature, cette culture de l'humilité. Ce patriarche de Venise, et il est gentil comme tout, Albino Luciani, on disait tout à l'heure, il sait très bien parler aux enfants, c'est un brave homme. De même que le pape François, aujourd'hui, a pris ce prénom François, en référence à saint François d'Assise.
Et qui a dit bonjour, le premier mot qu'il a prononcé lorsqu'il a été élu, après Habemus Papam, il a dit bonjour.
Voilà,
de façon extrêmement simple, comme il dit bonjour.
Tout à fait. Et encore aujourd'hui, rappelez-vous en plus le pape François qui va payer sa note d'hôtel le lendemain de son élection.
Oui, bon. Ça aussi.
Les deux hommes en effet sont comparables sur ce plan-là. Alors, ils sont effectivement en face des mêmes problèmes, et parfois des sacrés problèmes. Notamment celui de la Banque du Vatican, qui, dans les années 70, a été petit à petit entraîné dans des malversations, dans des contrats absolument pas net avec les mafias et les banquiers tordus. Vous avez cité Sindona ou Calvi, qu'on va retrouver effectivement pendus sous un pont de Londres. C'était un vrai problème, ça. Et ce problème, comme vous l'avez compris, il est encore aujourd'hui pas complètement résolu. Lorsque le pape François a été élu, c'était à son cahier des charges. Les autres cardinaux ont dit, on n'en peut plus de ces histoires de banque du Vatican, il faut remettre tout ça d'équerre.
D'ailleurs, on le dit, François, menacé.
Oh, ça, vous savez.
Oui,
tous
ça,
les
c'est
papes,
la machine à fantasmes.
Tous
bien,
les papes ont été plus ou moins menacés. Il est d'autant plus menacé que le monde est encore plus dangereux qu'avant, surtout sur ces grandes histoires communautaires ou religieuses où il y a un terrorisme qui est apparu, qui est un peu spécifique. Pensez que Jean-Paul II, dont nous parlions tout à l'heure, le Polonais, en 1981, a été victime d'un jeune musulman qui a essayé de le tuer. Mais vous imaginez si aujourd'hui ça se reproduisait? À l'époque, coup de peau, il y avait le KGB, dites donc. Et tout le monde a dit, c'est le KGB. Et on s'est dit, c'est un problème Est-Ouest. Mais aujourd'hui, imaginez que le pape soit victime d'un jeune terroriste musulman.
Bien sûr. Dernière question, il nous reste 45 secondes. Benoît XVI a démissionné. Certains ont quand même du mal à croire qu'un pape puisse démissionner. L'a-t-on démissionné? Lui aussi a-t-il voulu nettoyer les écuries d'Augias?
Alors non, il a démissionné. Ça, on le sait. Il l'a expliqué.
Mais il a démissionné, bon. Mais il l'a démissionné ou il était poussé à le faire?
Non. Il a démissionné lui-même. Il a beaucoup étonné son entourage, d'accord, qui n'était pas du tout prêt à ça. Il s'est référé à un pape de 1294 qui s'appelait Célestin V pour bien montrer qu'il n'était pas le premier à faire ça. Sauf que, en provoquant cette innovation, il a ouvert le champ de l'avenir. Les prochains papes, probablement, démissionneront aussi.
Quand la charge de travail peut-être aussi sera trop lourde.
Exactement.
Ça peut être le cas. Merci infiniment Bernard Lecomte. Je rappelle le livre dont vous êtes l'auteur dans la collection Dictionnaire amoureux chez Plomb. Vous, c'est Dictionnaire amoureux des papes. Merci.
Merci à vous.
C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui la mort de Jean-Paul Ier, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, ce sera la fiction, elle sera consacrée au Conti ou la vie après la perte d'emploi. Et je voudrais vous transmettre ce rectificatif. Hier, dans l'émission consacrée à la cassette mairie, épisode qui remonte à l'année 2000, une erreur s'est glissée dans le texte, une coquille, comme on dirait en presse écrite. L'avocat impliqué dans un volet de cette affaire ne s'appelle pas Jean-Didier Bello, mais Alain Bello. Jean-Didier Bello, lui, n'a strictement rien à voir avec ce dossier, qu'il veuille bien nous excuser. Bonjour Vincent Josse.
Bonjour Fabrice.
Si vous nous emmeniez dans la Russie éternelle, j'entends par là la Russie des artistes, notamment.
Celle de Tchaïkovski, vous voulez dire ?
Par exemple ?
Ben oui, c'est vrai que nous, dimanche en France, on aura tous la tête dans l'élection. Et là-bas, à Moscou et ailleurs peut-être, on pensera à lui parce qu'il est né le 7 mai 1840. Arrêtez de vous moquer de moi.
Ah bon, on se moque de vous là, à deux avec les cirgueillers et on ne se gêne pas. À tout à l'heure Vincent.